nos Bibles. Oups, j'ai oublié de mettre ça. On prend nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Et donc, c'est prêt, maestro? Ça marche? Good. Excellent. On a lu ce beau passage des Écritures. Et je dirais, on va pas mal passer au travers les versets, à travers le message. On va juste lire une petite section. En fait, ça ressortit. Il y a différentes choses qui sont sorties dans le temps de prière. Je pense qu'on commence à pogner le tour de la symphonie de la prière et tout ça. Vous voyez la dynamique, ce qu'on parle là? On voit vraiment qu'il y a une. Donc, amen. Je suis content qu'on ait eu un bon temps de prière. Puis, une chose qui est sortie pas mal, c'est ce qu'on va lire dans les versets 20 à 25. Comment Dieu, hein, c'est lui qui est le seul sage, et comment la croix confond toute sagesse humaine. C'est la proclamation de la sagesse de Dieu. Oui, le sage, oui, le scribe, oui, le raisonneur de ce siècle, on est au verset 20. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le... Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Quel passage! Et on va prier ensuite. J'aimerais ça vous partager une coupe d'affaires dans ce beau passage ce matin. Merci Seigneur qu'on a un temps comme ça qu'on peut te consacrer à écouter ce que ta parole proclame sur la croix de Christ. Et Seigneur, c'est elle qu'on veut mettre de l'avant. C'est ce qui est sorti dans notre temps de prière. C'est la raison pour laquelle on est ici. Qu'on est unis, c'est en toi, c'est parce que non seulement tu es mort pour moi, mais pour nous, mais en plus, chacun des enfants de Dieu ici, on est mort avec toi. Mort au péché, vivant pour Dieu. Et donc, on peut vivre à la lumière de cette croix glorieuse, et on te prie même que ceux qui ne te connaissent pas, soit ce matin ici, ou en ligne, ou plus tard, qui vont écouter ce message, qu'ils puissent venir au pied de la croix. Et passer de la mort à la vie. On te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Le titre du message, c'est « La confrontation de notre nouvelle autorité ». Le thème du mois de février, c'est notre nouvelle autorité. Et le concept même du salut en Jésus, de la délivrance que Jésus donne, ça l'implique une confrontation. Mais quel type de confrontation? En fait, c'est la confrontation de deux autorités opposées. C'est-à-dire, soi, ou le moi, là, moi-même, versus Jésus-Christ. D'où le concept, d'ailleurs, dans le monde, de l'auto-rédemption. Hein? C'est moi qui décide comment je me sauve. Je me sauve moi-même. Puis là, mettez ça à toutes les choses qui sont possibles et imaginables. Mais cette auto-rédemption est en opposition directe à l'exclusivité. Et là, je vais vous dire un mot qui est entendu des fois, et à l'innocuité de la rédemption en Jésus-Christ. L'exclusivité, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Innocuité, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal rattaché à ça. Quand on teste l'innocuité d'un médicament, on voit si le médicament fait du mal. On entend ça de nos jours, hein, des médicaments, hein, comprenez? Hein? Je n'ose même pas dire le mot parce que je ne voudrais pas qu'on soit barré de YouTube en disant le mot. Le mot. c'est ça. Donc, avez-vous remarqué dans le monde, en ce moment, la résurgence fulgurante, la montée fulgurante en ce moment de tout ce qui est l'auto-rédemption? C'est fou, avez-vous remarqué ça? Hein? Sauvons-nous maintenant, comme Hosanna, Jésus, là, quand il est descendu de l'entrée triomphale. Hosanna, Hosanna, ça veut dire sauve maintenant. Puis les gens veulent un salut, veulent être sauvés, veulent plus la misère qu'ils ont. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas à la bonne place. C'est tellement différentes formes d'auto-rédemption et ça l'affecte le monde chrétien. Le monde chrétien n'en est pas immunisé. En fait, c'est pas d'hier. Et on parlait de ça cette semaine, ma femme et moi, mais toute la question de la sanctification par les œuvres dans le monde chrétien, ça, c'est de l'auto-sanctification. C'est une forme, c'est un sous-produit de l'auto-rédemption. C'est moi qui m'en sors moi-même. Pensons à comment on a vu ça aussi dans le monde chrétien. Comment, hey, si tu fais ça, t'es un bon chrétien. Si tu fais ça, c'est ta planche de salut. Non, c'est par la foi qu'on plaît à Dieu. C'est pas parce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Fait que voyez-vous, le concept encore là est présent. Maintenant, ce dont on parle aujourd'hui n'est pas banal parce que on s'entend tous. Si, le salut, là, c'est plus que juste un petit ticket au ciel, là, puis tu reçois Jésus, pour ça, tu continues ta vie comme tu voulais, mais tu sais, t'as ton ticket au ciel. C'est pas ça le salut, c'est tellement plus que ça. Le salut, c'est littéralement la libération, la délivrance de tous les aspects de notre vie. Puis c'est pas tout instantané. Il y a un aspect instantané quand on est sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est sauvé, on ne peut pas être désauvé, on ne peut pas perdre notre salut. Puis aussi, ça nous dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Okay? Donc ça, c'est absolu, c'est parfait au moment du salut. Mais dans notre marche chrétienne, le péché qui nous enveloppe si facilement, quand on a les regards sur Jésus, sur la croix de Jésus, on expérimente de plus en plus la délivrance de la puissance du péché. Et donc, c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui. Tout ce qui a trait à la croix et notre merveilleux salut en Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais dire, encore, puis j'ai une assez longue introduction, vous allez voir, mais j'ai une couple de choses à vous dire avant qu'on plonge dans le texte à proprement parler. Lorsque le monde chrétien, ça c'est nous autres, lorsque le monde chrétien rentre dans la pensée, dans la philosophie trompeuse, et pernicieuse de l'auto-rédemption, de se sauver soi-même, ou de l'auto-sanctification, comme j'ai dit tantôt. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce monde chrétien? Il endosse et il valide le message du monde. Que le monde, on peut se sauver nous-mêmes et tout ça. Et c'est pour ça que les lignes de démarcation entre le monde et l'Évangile, le monde et l'Église, sont de plus en plus floues. Parce que le langage du monde est rendu de plus en plus le langage de l'Église. Pourquoi? Parce que le tranchant de l'Évangile, la confrontation de l'Évangile, la proclamation de l'autorité de la croix est de plus en plus évitée. Par peur de choquer, par peur de déranger. Et j'aimerais vous dire que Jésus a dérangé énormément. La croix dérange. Et elle devrait déranger. Si elle ne dérange pas, c'est parce que c'est nous qui ne la proclamons pas comme on devrait. Et on a une réponse pourquoi qu'il en est ainsi. Dans Galates, Paul était face à ça parce que, je vais vous lire un passage dans Galates, ça nous dit dans Galates 6, 12, « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. » Bon, c'est quelque chose qui était courant à l'époque avec les judaïsants. Uniquement, donc ils voulaient forcer à faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Mais écoutez ce que Paul dit. « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » La croix, la croix, la croix. That's it, comme dirait Bonicou. That's it.
Amen.
Et la croix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle confronte. On le voit dans notre passage, hein? Les gens vont dire, ah, c'est une folie la croix. Oui, parce qu'elle confronte la croix. Les gens vont dire, ça n'a pas de bon sens. Ça ne peut pas être si simple. Ça ne peut pas juste être ça. Oui, c'est juste ça, parce que c'est la perfection, c'est inégalé. C'est juste ça, parce qu'il ne peut pas avoir d'autre chose. Il n'y a pas deux croix, il y en a une seule. Et c'est la croix de Jésus. Et la croix, elle divise. Jésus, il dit, je suis venu amener la division parmi le frère, la sœur, le beau-père, la mère, il fait une nomenclature comme ça. Parce que l'opprobre, ou si vous voulez, la honte, l'opprobre, c'est une forte honte, c'est sorti dans le temps de prière ce matin. L'opprobre est rattaché à cette croix. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu, c'est pour ça que cette croix nous est toujours chère. Mais pour le monde, ça n'a pas de bon sens, c'est une honte. Et tous ceux qui prêchent la croix, qui élèvent la croix de Christ, qui vivent à la lumière de la croix, seront persécutés. C'est une belle promesse de la parole de Dieu. Ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, j'ai une belle introduction un matin accrocheuse pour essayer de vraiment le plus possible adoucir mon message pour le rendre palpable. Comment on dit ça? Pas palpable, mais acceptable, c'est ça. Ben, il y a quelqu'un qui était pas mal de ma philosophie aussi. Connaissez-vous A.W. Tozer? Qui, dans un de ses écrits, qui était pas, ceux qui connaissent un peu, il avait pas langue dans sa poche, puis il était capable de dénoncer les problèmes de son époque. Et donc, M. Tozer, ça fait à peu près 100 ans, là, a dit, donc il parle de la croix, ben, vous allez voir, il parle de deux croix. Ça, en fait, c'est un extrait d'un de ses livres, ça s'appelle, l'extrait, c'est « Les deux croix ». La nouvelle croix ne tue pas le pécheur, elle le réoriente. Elle l'oriente vers un mode de vie plus propre et plus joyeux et sauve son amour propre. Elle dit à celui qui s'affirme, viens t'affirmer pour Christ. À l'égoïste, elle dit, viens te glorifier dans le Seigneur. À l'amateur de sensations fortes, elle dit, viens goûter aux sensations fortes de la communion fraternelle. T'as essayé de mettre ça, là, les grosses églises flasheux, bing-bang, là, OK? Le message chrétien est orienté dans le sens de la mode actuelle. Ça fait 100 ans, là, OK? Pensez-vous que ça a changé? Moi, je pense pas. Afin de le rendre plus acceptable pour le public. Il semblerait que dans le christianisme du 21e siècle, il y ait deux croix, l'authentique et la contrefaçon. La croix authentique nous appelle à tout abandonner, tandis que la contrefaçon nous félicite et nous assure que nous pouvons amener le monde avec nous. C'est la raison pour laquelle un réveil véritable et durable continue de nous échapper. Nous devenons comme le système que nous avons été chargés de transformer. En nous compromettant avec le monde et en embrassant une autre croix, nous rendons un bien mauvais service à ceux-là même qui ont désespérément besoin de Dieu. Et je dis « Amen, M. Tozer, je suis d'accord avec toi. » Et donc, veux-tu un message de la croix qui attire à l'homme ou qui attire à Jésus-Christ? Si notre croix, c'est la croix de Christ, elle va peut-être avoir l'opprobre, peut-être que les gens ne la comprennent pas, mais elle ne va pas nous attirer à nous autres. Elle va attirer à Christ. Et c'est ça la beauté. Il y a une confrontation par la croix. Il faut qu'il y ait une confrontation, sinon ce n'est pas le vrai message de la croix. Si on élève Christ, Jésus l'a dit, hein, lorsque lui est élevé, puis il parlait de la croix justement, lorsque le Fils de l'homme va être élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Et pour nous, on doit faire confiance que Dieu, lorsqu'on prêche la croix comme ça, on le fait dans la foi que Dieu va honorer sa parole, parce que c'est la semence vivante de l'Éternel, et que Dieu va se servir de la prédication de la croix pour amener des gens à lui. Il faut qu'on y fasse. On n'a pas besoin d'essayer de le changer, de le rendre acceptable. Non, on prêche la croix telle qu'elle est, puis Dieu, c'est ce qu'il prend pour sauver les âmes. Amen? Et donc, on n'a pas l'option. Peut-être qu'on peut essayer de l'apprendre, mais on n'a pas l'option d'adapter notre message. On n'a pas d'adapter l'Évangile. Et là, on comprend, on se fait tout à tout. Je veux dire, on est en 2024, on n'est pas obligé de prêcher comme quelqu'un le faisait en campagne en 1902, là. OK? Mais le message, c'est le même qu'en 1902, puis c'est le même que Paul prêchait, puis c'est le même qu'au Moyen-Âge. Je veux dire, il y a un évangile, il n'y en a pas deux. On peut se faire tout à tous en essayant de comprendre les gens puis où ils sont rendus, mais le message, lui, ne change jamais. C'est le message de la croix. Et donc, ce qu'on va regarder simplement, c'est trois confrontations salutaires qui sont comprises dans la confrontation de notre nouvelle autorité en Jésus-Christ. Quand on prêche la croix, on prêche que Dieu est roi, qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Ça amène trois confrontations. Et sont salutaires, c'est des bonnes confrontations. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est là qu'est la délivrance. D'abord, il y a une confrontation avec nous-mêmes. Regardez le verset 9. Ça dit, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » La confrontation avec nous-mêmes, c'est vraiment la question, est-ce que j'ai moi-même ou Jésus-Christ au centre de ma vie? Hein, ceux qui s'en rappellent, je pense que c'est l'été dernier, j'avais amené, peut-être plus à l'automne, le diagramme, hein, avec, on est fait en trois parties, puis est-ce qu'au centre, c'est moi ou est-ce que c'est Jésus? OK? Et si Jésus est au centre de nos vies. Puis s'il veut être au centre de nos vies, c'est pas pour nous rendre misérables. Au contraire, c'est pour nous libérer de la misère, de l'esclavage à nous-mêmes, à notre chair. Pourquoi? pour être en communion avec son Fils. C'est un appel. Dieu qui est fidèle, il nous a appelés à la communion de son Fils. Et ça, c'est la liberté. Plus on est en communion avec Dieu, plus on expérimente cette liberté. C'est pour la liberté qu'on a été affranchi. C'est la vraie liberté. La liberté du péché, la liberté d'aimer, la liberté de tout ce qui est bon, qui est vrai, qui est édifiant, qui est honorable. C'est la vraie liberté. C'est à ça qu'on est appelé. C'est la grâce du fait que non seulement Christ est mort pour nous, mais on est mort avec lui. Mort au péché, vivant pour Dieu. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Parce que le problème de la confrontation avec nous-mêmes, lorsqu'on est confronté avec nous-mêmes, et du fait que souvent, c'est ça, quand on regarde nos vies, on voit notre communion avec le Seigneur n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. En fait, savez-vous quoi? La communion qui a été brisée par le péché. Si vous êtes un enfant de Dieu, là, ce problème-là est déjà réglé. Le problème de la communion entre vous et Dieu, c'est réglé, c'est accompli. Il faut seulement croire que c'est réglé puis c'est accompli. Vous n'avez pas besoin d'essayer de plaire à Dieu pour faire de quoi. Vous avez simplement à vous soumettre à la réalité que tout est accompli. C'est ça, vivre à la lumière de la croix. Et là-dessus, je vous amène un point. S'il y en a qui ne sont pas sauvés, comment on rentre dans le salut? Comment on rentre? C'est quoi l'entrée dans la foi biblique? Ben, c'est ce que Romains appelle l'obéissance de la foi. Paul, dans Romains 1, puis dans Romains 16, donc à l'ouverture et à la fermeture de l'Épître aux Romains, il parle, par exemple, il dit « Nous avons reçu cette grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » L'obéissance de la foi, ça, c'est justement la question de l'entrée dans le salut. Comment on est sauvé? On se fait proclamer l'Évangile, puis on y croit. Ça, c'est l'obéissance de la foi. Savez-vous que pour les enfants de Dieu, il y a la soumission de la foi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission de la foi, c'est pour notre marche. Une fois qu'on est rentré, qu'on est en Jésus-Christ, la soumission de la foi est en communion avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important, l'humilité. Accepter d'être humilié, s'humilier soi-même. Pourquoi? Parce que c'est possible d'obéir sans nécessairement que notre cœur soit incliné. T'sais, on le fait, mais juste parce qu'il faut le faire. La soumission, c'est l'attitude du cœur qui se soumet à Dieu. OK? Donc, c'est vraiment plus... Parce que c'est ça, la marche avec Dieu, c'est dans l'humilité, c'est de vraiment, devant Dieu, d'incliner nos cœurs, de se soumettre à lui comme étant notre bon berger, comme étant celui qui est sage, celui qui est bon, et on s'appuie sur lui et non sur notre propre sagesse, sur la sagesse de notre chair. Donc, la confrontation avec nous-mêmes, c'est vraiment toute cette restauration qui vient du fait que notre relation personnelle avec Dieu est restaurée. Elle est vivante, elle est bonne, on en jouit parce que lorsque face à nous-mêmes, avec la croix, on voit que Dieu nous a délivrés de nous-mêmes et qu'on peut maintenant vivre dans la communion de son Fils, comme ça dit au verset 9. Et là, ça c'est, là on est tout ça sur un île désert. OK, le premier point, la confrontation à nous-mêmes. Je vous dis là, le message, plus ça va, plus ça se complique. On n'est pas toujours avec nous-mêmes, n'est-ce pas? Déjà, je vous regarde, là, on est pas mal les uns avec les autres à matin. Ça veut dire que c'est plus compliqué. Le deuxième point, lorsqu'on rajoute l'autre, ah ben là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a la confrontation avec nous-mêmes, mais aussi il y a la confrontation avec les frères et sœurs. Ça, c'est nous autres. Ça, c'est l'Église. Et on voit ça, regardez, ça dit au verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et ne point avoir de division parmi vous, et à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » Ça se peut-tu que c'est quelque chose qui peut arriver encore en 2024, que des frères et sœurs ne s'entendent pas toujours, qu'il y ait des divisions? Bon, peut-être pas à la même manière qu'on le voit ici, là, dans les versets qu'on a déjà lus, mais il y a une confrontation là-dedans, l'autre. Hein, on est des frères et sœurs, mais on n'est pas pareil. Puis des fois, on se pile sur le gros orteil, puis des fois, le pied au complet. C'est pas toujours facile. C'est là, tout, justement, la croix nous amène à accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Mais là, on va développer un peu l'idée de la confrontation avec nos frères et sœurs. Si le problème de la confrontation avec nous-mêmes, c'est mon autorité face à celle de Dieu, ben là, la confrontation entre les frères et sœurs, c'est mon autorité face à celle de l'autre. Moi, j'ai mon petit royaume où je suis le roi puis je veux faire ce que je veux. Puis toi, tu as ton petit royaume et tu es le roi, la reine, puis tu veux faire ce que tu veux. Ça, c'est la chair qui répond à la chair en passant. Là. OK? Là, c'est pas caricatural, mais presque, là. Donc, oui, effectivement, ça dérape. Là. Quand on parle là-dessus, pensez-vous que ça donne des belles petites relations fraternelles ou est-ce que, tu sais, deux rois qui veulent pas s'incliner puis qui veulent avoir leur royaume qui fonctionne, ça marche pas. OK? Mais Dieu qui est pour nous, puis qui est en nous quand on est son enfant, puis Dieu aussi qui a répandu dans nos cœurs son amour par l'Esprit qui habite en nous, a une réponse tellement simple. On peut dire, hey, c'est mon autorité. Non, c'est la mienne. Ça, c'est la chair qui répond à la chair. Mais Dieu dit, non, moi, je suis l'autorité supérieure, bienveillante, délivrante, bienfaisante, l'autorité parfaite. Dans le fond, c'est quoi la solution à cette confrontation entre frères et sœurs? C'est pas d'essayer de s'élever un puis l'autre, c'est les deux de se soumettre à celui qui est l'autorité suprême. Quand ça arrive, tout prend place comme ça devrait. Et Dieu nous appelle, nous invite à croire simplement comme... OK, ce point-là, il est simple. OK, pour nous, personnellement, avec Dieu, là, ça nous dit dans Jacques au chapitre 4, tantôt j'ai cité le verset 7, mais écoutez, chapitre 4, verset 6, ça nous dit que Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente, OK? Parce que son esprit habite en nous avec jalousie, mais Dieu, lorsqu'il y a un combat dans nos membres, Dieu donne plus de grâce. On a un combat, mais Dieu donne une grâce qui est plus grande que ce qui nous tire vers le bon, OK? Dieu donne une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est dans ma relation personnelle avec Dieu, OK? Si je veux avancer avec Dieu, c'est dans l'humilité. Parce que quand il y a de l'orgueil, Dieu me résiste. Fait que là, ça va pas bien. Mais écoutez, quand on rentre l'autre là-dedans. Là, je viens de vous citer Jean, chapitre 4, verset 6. Mais écoutez, 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 et 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, tout le monde, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Même citation. Contexte fraternel, interrelationnel. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien à rajouter. Je veux dire, pour la confrontation entre les frères et sœurs, comme moi personnellement, je peux avoir entre moi et Dieu, mais entre frères et sœurs, la solution, c'est l'humilité. Se revêtir d'humilité dans nos rapports les uns avec les autres. Quand on accepte que Dieu nous humilie comme ça, puis qu'on le vit dans nos relations mutuelles, c'est l'huile qui lubrifie les relations interpersonnelles dans une église comme la nôtre. Et cette idée-là de se soumettre dans nos rapports mutuels, les uns les autres, et de se revêtir d'humilité, ça fait toute la différence par rapport à comment moi, ensuite, j'arrive devant Dieu pour me soumettre sous sa main puissante. Parce que Dieu, il fait le lien direct. Ah, tu dis que tu m'aimes puis que tu veux te soumettre à moi? Ben, c'est moi qui t'ai envoyé le frère puis la sœur qui te dérange. Faut que tu t'humilies avec cette personne-là parce que c'est moi qui a décidé que ça allait être demain. C'est la façon que moi, j'ai décidé que je voulais t'humilier puis que je voulais te faire grâce. Oh! C'est ça, la confrontation. C'est pour ça que la solution, c'est tout simple, juste de l'accepter. S'humilier, c'est quoi? C'est l'arrêt des résistances. OK, Seigneur. C'est l'arrêt de s'appuyer sur notre sagesse, sur notre volonté, sur de tenir notre bout. Non, Seigneur, c'est bon. Tu l'as voulu comme ça, je l'accepte. Et ça, c'est la liberté. Ça, c'est la joie, c'est la paix. On est bien dans ce temps-là. On n'a pas de remords. Au contraire. Mais là, voulez-vous, ça se complique encore. Là, on a eu une personne seule avec Dieu. Là, tu as des frères et sœurs ensemble. OK, bon, là, on a déjà deux problèmes de régler. Ça va bien matin. Mais savez-vous, quand les choses peuvent s'envenimer davantage lorsque on parle de notre relation avec le monde? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ceux qui sont dans le monde. Donc, notre confrontation avec le monde. Et là, on a ça dans les versets 17 à 25. On va lire... excusez. 17. OK, c'est ça. Ce n'est pas pour baptiser que je vous ai envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela avec sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens dans le monde, les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On espère qu'ils vont le connaître, mais tant qu'on ne connaît pas le Seigneur, la prédication, c'est une folie. Prédication de la croix. Mais pour nous qui sommes sauvés, quand on s'est humilié devant la croix, quand on a reçu la grâce de cette croix, pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'a expérimenté. On est délivré, on est libéré. On voit, c'est pour ça qu'elle nous est si précieuse. Et c'est pour ça que ça dit au verset 19, « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Les autres versions, désolé, on va s'arrêter là pour l'instant. Mais la confrontation avec le monde. En passant, c'est juste à côté, là, un autre passage par rapport à la sagesse du monde, chapitre 2, verset 6. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Ça, c'est nous, c'est les sauvés. Okay? On est parfaits devant Dieu, on a la justice de Christ, la justice de Dieu en Jésus-Christ, excusez. « Que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc, c'est ça ici. Quand on est confronté avec le monde, on voit qu'on est complètement dans deux univers différents. Dans la vie versus la mort, dans la lumière versus les ténèbres, dans le royaume de Satan versus celui de Dieu. Pour ça qu'il n'y a aucune compréhension possible. Avec un frère, tu sais, on a l'Esprit de Dieu. Mais le monde, c'est vraiment le fossé est énorme. Et le seul pont, c'est la croix. N'as-tu qu'on a déjà vu ça? Il y a un traité comme ça, là, que tu vois comme un précipice de chaque bord. Puis, tu sais, le monde ne peut pas aller vers Dieu. Puis le pont, d'ailleurs, le traité, le pont, c'est ça, c'est la croix. C'est la croix qui fait le pont. Et donc, on voit que ce qui confronte le plus le monde, c'est la croix. C'est évident parce que c'est la croix qui est la plus attaquée. Et donc, avec les nouvelles et tout ça, qu'est-ce qu'on attaque le plus? C'est-tu les musulmans, les juifs? Oh, il y a de l'antisémitisme, puis oui, il y a de l'islamophobie, puis tout ça, mais regardez comment que la croix, la chrétienté, tout ce qui est de Dieu, c'est... Ça, non seulement c'est moqué, mais il n'y a pas personne qui défend ça. C'est quand on entend... on l'entend peut-être un petit peu, mais l'expression christianophobe, c'est rare, hein? Pourquoi? Parce que justement... Elle, la croix, c'est parce que la croix, c'est le feu dans l'édifice de l'autorédemption. Les autres, ça fait partie de la même gamique. C'est toute l'autorédemption. Mettez-le religieux, mettez-le philosophique, mettez-le à la sauce que vous voulez. C'est toujours la même autorédemption. Mais la croix, ça proclame la seule rédemption. Et c'est pas autorédemption, c'est la rédemption divine. C'est complètement... C'est diamétralement opposé à ce qui est dans le monde. C'est pour ça qu'elle est si mal reçue par le monde et par la sagesse du monde. Et savez-vous, c'est quoi qui est en jeu? C'est l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui l'ai voulu de même. C'est moi qui décide comment qu'on est sauvé. C'est pas la gang des musulmans là qui dit, ah ben nous on veut faire ça de même. Ou hop, la gang des philosophes, des religieux ou des athées, ah nous on veut ça de même. C'est pas à l'homme de décider comment qu'on est sauvé, c'est Dieu. De sa propre autorité et sans aucune possibilité d'amender, sans aucune possibilité de dire « moi je voudrais ça demain », c'est Dieu qui dit « non, c'est comme ça qu'on est sauvé et c'est par la croix ». Il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. La question, c'est l'autorité de Dieu qui est en question. Maintenant, je vais amener un point ici, une illustration. Je vais nommer des noms. C'est rare que je fais ça, mais savez-vous, dans l'époque où est-ce qu'on est, il y a tellement sur Internet, il y a tellement d'affaires. Puis il y a des gens qui sont très populaires, puis qui parlent de Dieu, mais qui ne prêchent pas la croix de Christ. Un exemple, pour les anglophones, Jordan Peterson. OK? Pour les francophones, Denis Marquet. OK? Alexandre Avant, je ne le connais pas assez pour me prononcer sur lui, mais même j'entendais, je parlais de ça tantôt. Jim Carrey, là, qui aurait eu un témoignage de salut, puis c'était pas clair. Pourquoi la croix n'était pas prêchée clairement dans son affaire? Puis, tu sais, j'ai juste entendu ça vite, je sais pas trop, mais le point, c'est le suivant. On a tellement de protagonistes de l'auto-rédemption qui parlent beaucoup de Dieu, qui parlent de Jésus-Christ. Denis Marquet parle de la philosophie du Christ, puis j'ai lu un de ses livres, puis tu sais, t'es là, wow, il y a des bons points, il y a des bons points. Mais ils tombent tous dans le piège de ce qui est donné dans Galates. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement pour ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Est-ce que c'est normal quelqu'un qui vend des millions de livres, qui a des millions d'adeptes sur sa page YouTube, Facebook? Est-ce que c'est quelqu'un qui prêche la croix, vous pensez? Selon notre texte, selon ce qu'on voit? Non, justement. Parce qu'il ne prêche pas la croix, il prêche une espèce, tu sais, pour prendre ici, là, c'est pas la circoncision, mais c'est une affaire de des œuvres, la bonté intrinsèque, ou le salut par l'amour. Il y a tout ça, c'est dit dans toutes sortes de façons, mais savez-vous quoi? C'est de l'auto-rédemption, et c'est ce que j'appelle, bon, moi j'appelle ça de même, je ne sais pas si... Il y a d'autres qui en plus, mais tu sais, le gnosticisme dans la Bible, là, je ne vais pas rentrer dans les détails du gnosticisme, mais la connaissance mystique qui nous mène à Dieu, puis tout ça, ben ça, c'est du néo-gnosticisme. C'est de l'intellectualisme qui veut amener des vérités de Dieu, des vérités même bibliques et tout ça, mais sans la croix de Christ, sans l'opprobre de la croix. Et ça, je le dénonce, parce que c'est une question de vie ou de mort, parce qu'il n'y a pas de vie sans la croix. C'est bon, quelqu'un de sincère, puis qui parle de Dieu, puis qui a des bonnes affaires, une étude biblique sur ça, puis OK. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là n'ont pas des bons motifs, puis tout ça, mais je suis en train de dire qu'ils sont égarés eux-mêmes, puis qu'ils égarent d'autres. Parce qu'ils n'ont pas accepté la croix. Et ils évitent de façon systématique, qu'ils le veuillent ou non, l'opprobre de la croix. Parce que c'est une question d'autorité. Ils n'ont pas l'obéissance de la foi, ils ne sont pas humiliés devant cette croix, ils ne sont pas soumis, et donc, ils prêchent une autre croix, ils prêchent un autre message. Et faites attention, parce que c'est tellement trompeur, puis de nos jours, là, c'est incroyable le nombre de voix, là. Il y en a de tout bord, tout côté, en français, en anglais, puis toutes les langues, je veux dire, c'est fou, puis il ne faut pas être naïf. La Bible nous dit... Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible dans 1 Jean au chapitre 4, verset 1? « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc, il ne faut pas être naïf. On est dans une guerre spirituelle. Et une fois qu'on a enlevé là, toutes les apparences, tout le langage de religiosité, tout ça, ça revient à quoi? On peut déterminer rédemption en Jésus-Christ ou auto-rédemption sous différentes formes que ça peut être. C'est un ou l'autre. Et donc, ça, c'est ce que le monde va dire. Puis s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre, puis ils ne vont pas prêcher Christ. Mais savez-vous que même le monde chrétien est affecté par ça? Pourquoi? Parce que la majorité des prédicateurs chrétiens prêchent une sanctification par les œuvres. Si tu veux plaire à Jésus, il faut que tu fasses ça. Puis là, tu as à la sauce d'un tel milieu, à la sauce d'un autre, à la sauce d'un autre. Ça aussi. Ça passe pas. Pourquoi? Parce que ça l'enlève à l'œuvre parfaite de Christ. Si Jésus a tout accompli, on n'a pas besoin de faire de plus, on a besoin de vivre à la lumière que tout est accompli. On l'accepte, on le vit par la foi. OK, je veux le dire là, dans les mots, c'est un beau verset sur la croix. Là. J'ai été crucifié avec Christ. Toutes mes affaires, mon faisage, là, tout ce que je peux faire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. Là. Ça sert à rien d'essayer, là. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie chrétienne, c'est pas d'essayer plus fort, c'est pas d'avoir la bonne recette, c'est de laisser Christ vivre en nous. Et c'est pour ça que l'humilité, c'est tellement important. Faut pas s'appuyer sur notre propre sagesse, on s'appuie sur Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore, là, dans cette chair, là, je vis dans la foi. La foi, la confiance au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et regardez avec quoi on conclut au verset 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes. Je ne veux pas aller trop vite sur ce beau petit mot-là. C'est par lui que vous êtes. En Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais je veux vraiment m'arrêter sur cette expérience. C'est par lui que vous êtes. Tu sais, nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Quand on est sauvé, on est une nouvelle création. Dieu nous donne une nouvelle identité. Tout est nouveau. Il a fait toutes choses nouvelles quand on est un enfant de Dieu. Et c'est la grande vérité, tellement simple, mais libératrice et bienfaisante, avec laquelle notre texte conclut ce matin. Dieu, en Jésus-Christ, là, a pas seulement fait quelque chose avec nous, parce que oui, il a fait quelque chose avec nous. Il a pas juste fait quelque chose pour nous, parce que oui, il a fait quelque chose pour nous aussi. Et il fait pas juste non plus nous demander, nous exiger de faire des choses pour lui ou avec lui, mais il a fait quelque chose de nous. Nous sommes son ouvrage. C'est ça, être une nouvelle création. C'est par lui que vous êtes. Tu sais, on n'a pas besoin d'essayer d'être quelque chose. Dieu a fait de nous ce que nous sommes. On a notre identité, on a tout ce qu'on a besoin pour la sécurité, l'assurance, l'identité. On l'a lorsqu'on est sauvé. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il y a une grande liberté à simplement accepter ça. Essayez pas d'être quelque chose. Dieu a fait de vous déjà tout ce que vous avez besoin d'être. Vivez-le. Par la foi. En toute simplicité. C'est la fin de la lutte et du fardeau de l'auto-rédemption et de l'auto-sanctification. On n'a pas besoin de se casser la tête à essayer d'être quelqu'un. Dieu a fait de nous. La foi, maintenant, c'est Dieu, maintenant je veux vivre tout ce que tu as fait de moi. Je veux l'expérimenter. Et ça, c'est la foi. Ça, il faut, tu sais, c'est pas passif. Il faut vraiment s'en remettre à Dieu, dépendre de lui, choisir la vie, la dépendance. Puis comme je disais, ouais, c'est plate la dépendance parce que des fois, c'est humiliant. Des fois, c'est pas ce qu'on aurait voulu faire. Je reviens à tantôt. Avec la personne, la situation qu'il a mis dans ma vie, que je n'aurais pas voulu, puis que je voudrais donc me débarrasser. Mais non, c'est Dieu dans sa bonté qui le permet. Pourquoi? Parce qu'il poursuit exactement ce but-là. Il est en train de faire avec toi. Il fait de toi ce que lui veut faire. Tu es son œuvre, tu es son ouvrage. Puis cette personne, cette circonstance, c'est l'instrument dans ses mains. Il est en train de te façonner. Il est le potier, on est le vase entre ses mains. Et c'est vraiment... C'est l'issue bénie et heureuse de la confrontation de notre nouvelle autorité. C'est lui qui décide, puis c'est bien tant mieux de même. On est libéré de nous-mêmes. On n'a pas besoin d'essayer de tout décider nous-mêmes, puis d'avoir ce fardeau-là sur ses épaules. Hey, c'est Dieu qui est notre autorité, notre nouvelle autorité. C'est bon. Ça fait du bien. Puis, pourquoi c'est de même? Parce que, Jésus, c'est lui... Le dénouement, le but ultime de toute notre vie. Ça nous dit que Dieu a commencé en nous une œuvre qui va rendre parfaite, puis que Dieu fait concourir toute chose à notre bien, puis c'est quoi notre bien? C'est devenir semblable à l'image de son Fils. Et Dieu, en Jésus-Christ, est celui qui a l'autorité, le pouvoir de déterminer l'issue, la fin des choses dans notre vie. C'est lui qui est l'auteur, le commencement. Dieu est la source de notre salut du début à la fin. C'est pour ça que l'auto-rédemption, c'est quoi? C'est le château de cartes des efforts humains que tu souffles dessus puis ça tombe à terre. La rédemption, c'est éternel. Cette croix, elle reste debout. La croix reste debout. C'est la rédemption divine. Rien ne l'égale, rien ne peut la surpasser, rien ne peut la faire tomber. Et tous doivent simplement se soumettre par la foi à cette nouvelle autorité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur cette autorité? Ça nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu, ça nous parle de Jésus, hein, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, mais Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez le faire un jour. Vous êtes aussi bien de le faire maintenant. C'est ce qui est le plus merveilleux. Que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si vous êtes un enfant de Dieu, ça dit amen. Peut-être avec votre bouche, vous venez de le dire dans votre cœur, parce que c'est votre joie. Puis si vous n'êtes pas sauvé, c'est ça, être sauvé, c'est se soumettre, plier le genou devant l'appel de la croix pour recevoir le Fils de Dieu qui est mort pour nous, qui est mort pour vous, qui est celui, le seul qui a conquéri, celui qui donne la vie, qui a la pleine et parfaite délivrance. Pour les pécheurs qui ne connaissent pas encore Dieu et pour les saints, qui ont été délivrés et qui vivent de plus en plus cette délivrance bénie. Donc, j'appelle à simplement accepter, recevoir cette délivrance. Amen.
Amen.
Merci Seigneur pour la croix. Oh, j'aime la croix. Puis ce texte est tellement précieux parce que ça l'ouvre, cette épître, avec l'essentiel. Oh, il y avait de l'humain, beaucoup, à Corinthe. Des divisions, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Mais tout ça est anéanti par la croix. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de conseil devant l'Éternel. Et c'est la croix qui fait fermer toute bouche. Et merci pour cette croix merveilleuse et précieuse. Elle est pour le salut de quiconque croit. Et pour nous qui sommes sauvés, c'est le début, le milieu et la fin de notre liberté. Donc, Seigneur, on veut vivre à la lumière de cette croix. Et simplement, en toute simplicité, accepter qu'on a été crucifié avec Christ, que si maintenant on vit dans la foi au Fils de Dieu, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Seigneur, accomplis tes desseins bienveillants, que tu as commencé avec cette croix et que tu n'as pas fini, Seigneur. Tu n'as pas fini dans la vie de tes enfants. Et or, que ceux qui ne te connaissent pas viennent simplement au pied de la croix, brisés, nus, sans rien, mais en se confiant dans la rédemption que tu nous donnes par la croix. On te le demande au nom de Jésus. Amen.